France Culture, il est 9h, le journal avec vous Anne-Laure Choin, bonjour.
Bonjour à tous, la campagne américaine pour la présidentielle peut donc commencer cette nuit. La candidate démocrate Hillary Clinton a été officiellement intronisée par son parti lors de la convention démocrate à Philadelphie. Émue, elle s'est déclarée lucide quant à l'avenir de son pays et elle a enchaîné les propositions de mesures, notamment économiques, qu'elle prendrait si elle était élue. Et puis évidemment, elle a attaqué son adversaire républicain Donald Trump. À Philadelphie, le récit de notre envoyé spécial. Élise Delève.
I accept your nomination for President of the United States.
Elle accepte sa nomination avec humilité, détermination et une confiance sans limite. Et ses premiers mots sont destinés à son ancien rival.
I want to thank Bernie Sanders. Bernie, your campaign.
Je veux remercier Bernie Sanders. Bernie, ta campagne a inspiré des millions d'Américains, surtout les jeunes qui se jettent corps et âme dans nos primaires. À tous tes supporters ici et à travers le pays, je veux que vous sachiez, je vous ai entendu. Votre cause est notre cause.
Your cause is our cause.
Lors de ce discours, Hillary Clinton reprend une bonne partie du programme de Sanders. La candidate à la Maison-Blanche parle d'augmentation de salaire, de gratuité des études supérieures et propose au sénateur du Vermont de travailler avec elle sur la dette étudiante. L'autre personne la plus citée, c'est l'adversaire d'Hillary Clinton, Donald Trump. Elle s'interroge sur le tempérament du candidat républicain. Un homme que vous pouvez provoquer avec un simple tweet n'est pas un homme à qui on peut faire confiance avec les armes nucléaires.
Élise Delève, l'élection aura lieu en novembre. D'ici là, les deux rivaux vont mener leur campagne dans quelques états clés et tenter de rameuter les indécis ou même les votants de leur propre camp, pas encore convaincus par les deux personnalités. Nadine Epstein.
La course va donc durer maintenant 73 jours pour la démocrate Clinton et le républicain Trump avant le match final. Aux deux favoris s'ajoutent deux outsiders, la verte Jill Stein et le libertarien Gary Johnson, deux candidats qui sont actuellement marginalisés dans les sondages, n'atteignant pas la barre des 5% pour la première et moins de 10% pour le second. Mais dans certains États, il pourrait largement bénéficier des voix démocrates qui rejettent Clinton et des républicains hostiles à Trump, pouvant ainsi faire basculer la victoire dans un État pivot, un swing state, et donc être décisif pour le résultat final. En effet, les prétendants à la Maison-Blanche ne mèneront pas campagne dans tout le pays pendant les deux mois qui viennent. En réalité, une vingtaine d'États comptent et seulement 10 sont décisifs et très disputés, car ils peuvent échapper autant démocrates qu'aux républicains, compte tenu de leur caractère sociologique électoral, population urbaine ou rurale, noir, blanc, latino, situation économique, mais aussi poids de la religion et des valeurs conservatrices ou progressistes. Mais ce que les candidats chercheront en premier lieu est de mobiliser les électeurs, de convaincre toutes ces Américaines et ces Américains qui ne vont pas voter. Aux USA, globalement, la moitié des personnes en âge de voter s'abstiennent.
Manuel Valls estime que la libération d'Adel Kermiche, l'un des deux terroristes de Saint-Étienne-de-Rouvray, est le signe d'un échec. Une longue interview du Premier ministre est parue dans Le Monde ce matin où il détaille les mesures qui pourraient être prises après la série d'attentats sanglants qu'a connu la France ces derniers mois. Et il évoque notamment une interdiction temporaire du financement des mosquées par des capitaux étrangers. Manuel Valls, qui cible également Nicolas Sarkozy, qu'il accuse d'avoir, je cite, « perdu ses nerfs », il fait référence à l'argument utilisée par l'ancien président pour mettre de côté les arguties juridiques, selon lui, qui brideraient la lutte contre le terrorisme. Et cela fait plusieurs jours que la droite et la gauche s'affrontent sur ces questions, en l'occurrence la remise en cause de l'état de droit. Stéphane Robert.
Ce débat n'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'une partie de la droite, dans le sillage de Nicolas Sarkozy, fait dans la surenchère sécuritaire. Il faut aller plus loin, toujours plus loin, pour garantir la sécurité des Français. Il faut pouvoir en particulier, explique Laurent Wauquiez, enfermer dans des centres de rétention les personnes qui font l'objet d'une fiche de renseignement pour des soupçons de radicalisation. Seulement, c'est créer une justice préventive, une justice d'exception. Bref, c'est sortir de l'état de droit. Et ça, il n'en est pas question, a dit François Hollande, juste après l'attentat survenu à Nice. Le président a fixé le cap et depuis le gouvernement s'y tient. Ce sont les arguties juridiques, a renchéri Nicolas Sarkozy. Mais la Constitution n'est pas une argutie juridique, lui a répondu le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Elle est précisément ce qui garantit qu'en France, on ne peut pas enfermer sans preuve. Urvoas qui accuse désormais la droite de vouloir guantanamoiser le droit français, tandis que Nicolas Sarkozy estime que la Constitution, on peut l'adapter. Seulement, ce débat pose quand même quelques questions. N'est-ce pas François Hollande qui, il y a quelques mois, dans une main tendue jusqu'à l'extrême droite, a voulu instaurer la déchéance de la nationalité pour les terroristes ? Et n'est-ce pas Nicolas Sarkozy qui, dans un élan en direction de la gauche en 2003, avait plaidé pour la suppression de la double peine, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus expulser un étranger une fois purgé sa condamnation. Le problème est qu'entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, on est en apparence sur un débat de société, sur une guerre de conviction, alors qu'en réalité, tous deux sont dans une guerre de position.
Stéphane Robert, la croissance du second trimestre est décevante en France. C'est Bercy qui le dit après la publication ce matin par l'INSEE de plusieurs chiffres. Celui du PIB au second trimestre, donc, restait stable et la croissance, elle, est de 0%. Un mauvais résultat qui s'explique notamment par les grèves dans les raffineries et par une croissance plus importante qu'estimée au premier trimestre. Des mauvais chiffres qui ne remettent pas en cause la prévision de croissance pour 2016, selon Bercy, à savoir 1,5% au total. La Chine, qui souhaite toujours accéder au grade convoité d'économie de marché, fait un pas de plus dans la voie du libéralisme économique. Le gouvernement central chinois va légaliser les applications de réservation de voitures de type Uber. Le vice-ministre chinois des Transports a présenté hier la loi qui encadrera la profession dès le mois de novembre prochain. C'est un marché colossal, le plus important du monde, qui ouvre donc ses portes à Uber et consorts. Malgré la réticence des taxis, les procès et les déboires, l'ubérisation des moyens de transport se poursuit donc, Thomas Schoner.
Cette initiative de Pékin, c'est un tournant. C'est comme cela que l'a qualifié Didi, le concurrent chinois d'Uber. Même le vice-ministre en charge des transports a hier fait la promotion des VTC. Ils sont un moyen, dit-il, de promouvoir l'économie du partage, de réduire les embouteillages ou encore de diminuer la pollution de l'air. Cette annonce est une victoire pour les sociétés de VTC. Au niveau mondial, Uber, par exemple, la plus connue, affiche une réussite insolente. La marque est présente dans 450 villes. Et le 18 juin dernier, la firme américaine a annoncé avoir franchi le cap des 2 milliards de courses assurées dans le monde, le deuxième milliard ayant été réalisé en 6 mois. Les VTC et leurs plateformes de réservation en ligne attirent également les investisseurs. Apple, qui a investi 1 milliard de dollars dans Didi, l'application la plus populaire en Chine. Début juin, c'est l'Arabie Saoudite qui a injecté 3,5 milliards de dollars dans la société Uber via son fonds public d'investissement. Cette expansion accuse néanmoins quelques ratés, les procès, la mobilisation des taxis. Dimanche dernier, Uber a même dû quitter la Hongrie. Le gouvernement de Viktor Orban y a fait voter une loi qui permet de bloquer les services internet de tout prestataire de services de taxi qui ne dispose pas d'un centre d'appel.
On termine par le temps de ce vendredi 29 juillet. Maussade sur une grande moitié nord-ouest ce matin, de l'Alsace au nord de l'Aquitaine. De la pluie possible près des frontières du nord. Soleil brillant sur le quart sud-est cet après-midi de la Manche. À la Vendée, les nuages résisteront. Ailleurs, belles éclaircies. Les températures, elles baissent un peu ce matin de 13 à 29 degrés. Les maximales cet après-midi de 26 à 32 degrés au sud jusqu'à 36 degrés en vallée du Rhône. Excellente journée.